We will start with Minister Colli. Pour avoir la diversité des langues aussi, je vais parler en français. Votre pays, hier, on a beaucoup discuté que cette vision, c'est une vision sur l'agriculture durable. Votre pays est très connu pour la promotion de l'agriculture durable. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous faites la promotion de l'agriculture durable dans votre pays? Et aussi, hier, dans les discussions, vous avez dit qu'il faut faire de la COP, la COP 15 en 2020, la biodiversité, le pari de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est cette vision de faire la biodiversité de Paris? Merci.
Merci, Madame la Directrice Générale Adjointe, honorables invités, chers participants, chers collègues aussi. Je vais m'exprimer en français pour commencer, puis peut-être après un peu en anglais. Tout d'abord sur la première question, que fait la Suisse en matière d'agriculture durable et de biodiversité ? C'est vrai que depuis plusieurs décennies, la Suisse s'est beaucoup engagée pour promouvoir une agriculture durable, pour respecter un certain nombre de principes. Et quelques mots pour répondre à votre question, chère Maria Elena. Nous avons tout d'abord une constitution fédérale qui comprend un article qui demande aux autorités de mettre en place une politique favorable à la durabilité. Cet article a été plébiscité par le peuple suisse. Vous savez qu'on a une démocratie directe, donc les citoyens sont régulièrement consultés et plus de 70% des Suisses ont soutenu cette vision d'une politique agricole. À partir de là, nous avons construit différents instruments qui permettent d'avancer en direction d'une agriculture durable. Le système des paiements directs, direct subsidies, permet de piloter et d'aider les agriculteurs à pratiquer de bonnes pratiques agricoles et à respecter un certain nombre de règles agronomiques favorables à la durabilité. Parallèlement, pour les agriculteurs qui le souhaitent, il y a encore des instruments spécifiques qui leur permettent d'aller plus loin. Et puis, parallèlement aussi, il y a, au niveau de la politique environnementale, cette fois-ci, différentes mesures qui sont prises. Un monitoring très sérieux est mis en place pour mesurer les progrès réalisés. Et là, je dois dire, et c'est vraiment ça qui nous a fait pendant toute cette réunion dire, mais attention, ça ne suffit pas. Le monitoring nous a montré que nous n'avons pas réussi à stabiliser la perte de biodiversité, mais qu'au contraire, les phénomènes s'aggravent et se complexifient. D'où l'importance de la réunion d'aujourd'hui, d'où l'importance du processus que la FAO mène pour arriver à un accord international sur la biodiversité. Yesterday I told a little bit about a Paris momentum for biodiversity, and I think Paris was a really important rendezvous for climate and for the planet. And we need to have such momentum for biodiversity. And your question, dear Maria Elena, is how can we prepare this momentum? And I think there's a need of different activities, preparing activities, and FAO should play a very important role. And our colleague from Poland, our colleague from Egypt are saying the same. We should work together to prepare the next meeting and to be able in Peking to have this momentum. It's a question of mobilization, but it's also a question of consensus. And maybe there's a lot of things to do from now to 2020 to have a strong commitment about what does it mean, a convention on biodiversity. And as yesterday discussed, we need to have a very strong role for FAO to mobilize the civil society, the stakeholders, the member states, the private sector to prepare a convention. What should this convention look like? She should concrete. She should ambitious also, and she should be measurable. We need to have specific goals, and these goals should be and have to be measured. Another thing for this Paris momentum is also that we need an agreement which should be, how do you say in English, contraignant, binding. We don't need blah blah. We need to bind the world community on this convention. So, this is some ideas, dear Maria and Elena, to prepare this Paris momentum. And maybe from this meeting to 2020, there's a need of other meetings in the different continents to prepare this consensus, to discuss about what should be this next convention. And with that, we have the chance to have a Peking momentum. Thank you.
Thank you very much. We need action. We need to be binding, and you need to really be fast towards preparing 2020, and we need to be prepared at regional level. Now I move to our next speaker, His Excellency Inia Sirui Ratu, the minister from Fiji. He has a long portfolio, but he is also climate champion. He is the chair of the regional conference for the Asia region, and he brings a new perspective from a small island development state. Minister, can you give your perspective, also how we can link the global, the regional, and the country level actions, and how important is biodiversity for small island development states? The floor is yours.
Thank you, Excellency, Madam Elena, the Deputy Director General for FAO. I acknowledge the distinguished panelists with all protocols observed. Excellencies, ladies and gentlemen, once again, Mbulavanaka, and a very good morning to you all. During the opening on Monday, I started off by saying that we are on uncharted territory and we need to talk more, and we need also to work jointly across sectors to preserve biodiversity and to reach a sustainable future. The mainstreaming of biodiversity at the national level requires a multi-stakeholder dialogue that facilitates and coordinates biodiversity action on across agricultural sectors, so that biodiversity considerations are brought into convention decision-making frameworks of economic policies, and ultimately supporting seeds policymakers' ability to facilitate a sustainable agricultural economy transition. Let me underline Fiji's point of view, and of course consistent with other small island developing states as well, on the importance of protecting and mainstreaming biodiversity across agricultural sectors. And for us, this is key for a few underlying reasons. One is for supporting the productivity of our agricultural sector, and to ensure a healthy oceans, and of course a productive fisheries sector, for encouraging sustainable biodiversity, friendly tourism to our islands, for promoting food security and providing healthy diets to our communities, for increasing the resilience of our vulnerable communities to extreme events, and for ensuring access to ecosystem services that are necessary for the institution of healthy diets. And above all, mainstreaming biodiversity is the key to build bridges between the efforts of government and local communities and other stakeholders to overcome the vulnerabilities of seeds by bringing biodiversity considerations into conventional decision-making frameworks across agriculture, forestry, and fishery sector. Excellencies, I hope that you will bear with me. I come from a small island state, and we have more seas than water. Land. And I will focus probably my intervention this morning on oceans and fisheries, although we acknowledge the fact that terrestrial activities are important for us, but I think you will understand that for us, the oceans is our life, it's our culture, and the very thing that we cherish is also threatening us in terms of food security and climate-induced disasters, and the list goes on. And so I will probably focus more on fisheries this morning. The Pacific Ocean, as you all know, is the largest ecosystem in the world, holding the largest stocks of tuna, a rich diversity and stocks of sharks, reef fish, marine mammals and turtles, and with extensive coral reef systems. This richness in biodiversity also reflects the economic potential of this sector for Pacific Island states. Coastal or inshore fisheries is of great importance in our region, providing food security and diverse livelihood opportunities for local communities. And inshore fisheries is a primary or secondary source of income for up to 50% of households in the Pacific region. And at national level, it is estimated to contribute about 49% of the total fisheries contribution to our GDP. As you can see, Excellencies, the socio-economic contribution of inshore fisheries in the Pacific Island states is quite significant. And given that local coastal communities receive about 50 to 90% of their animal source protein from fish, their food security is also heavily dependent on this sector. However, we are seeing a concerning trend with a decline in coastal fisheries against the rising populations or the increase in our populations. And this decline will affect food security and may drive fishermen to more intensive harvesting practices. Rising populations also mean increased pressure on the mangroves and our surrounding coastal vegetation. As we know, the health and productivity of the fisheries sector is closely connected to the health of the surrounding mangrove and all the reef ecosystems. And the health of the marine ecosystems and of the oceans influences fish and marine animal stocks and diversity. Therefore, it is vital that the economically strategic linkages are made between the health of marine ecosystems and the productivity of coastal fisheries. Whilst these connections may be already reflected in numerous environment and biodiversity management policies and plans, the significant contributions from coastal fisheries need stronger recognition, especially at the political level, and in national, regional, and global policies and strategies of all sectors concerned. Ladies and gentlemen, it would be remiss of me if I do not mention the escalating global threat that we are all acutely aware of, and that is climate change. And my co-champion, Mr. Khrushchev, has already given you some insights on this. But let me again remind all of us that science is telling us that our ocean is warming and its chemistry changing. We are seeing more frequent and extensive coral bleaching episodes in many regions around the world. Fish and marine animals are relocating from their usual habitats for more tolerable environments. This fundamentally disrupts food chains and aquatic ecosystems. It is clear that climate change will compound the already existing damaging impacts of marine ecosystems. Such are the overexploitation of both terrestrial and marine resources, increasing pollution and waste, and of course destructive fishing practices. But we also know that opportunities are also presented because of climate change. And this includes the development of blue carbon initiatives that capitalizes on the role of the oceans and its ecosystems as carbon sinks and reservoirs. However, the ocean and the marine ecosystems to effectively carry out its role in sequestering and storing carbon, it needs to be in a healthy state. And the ocean can only provide its valuable ecosystem services, including climate resilience, if it is kept healthy. And this brings us back to the importance of maintaining and conserving the biodiversity of the marine ecosystems. It is necessary for us as large ocean states to have oceans and marine ecosystems in our nationally determined contributions or NDCs to advance climate action in these sectors. Vulnerable ocean states should reflect in their NDCs the strong connection that they have with oceans in terms of strengthening resilience, including food security. And these NDCs should also strongly recognize the healthy and biodiverse marine ecosystems made for robust carbon pools. Ladies and gentlemen, it should be obvious that the ocean connects many sectors and stakeholders and requires the involvement of an array of partners and actors to safeguard the valuable and varied services and resources that it provides. Partnerships are needed between research institutions, government industries, and other private sectors. The need for such partnerships can be demonstrated when undertaking a blue carbon initiative, an initiative that can be a vehicle for both biodiversity conservation and food security. In our small island states, such an initiative depends on the commitment and cooperation of various actors. And let me just list them before I conclude. One, it depends on the local coastal communities who utilize marine resources for their food and livelihood. It also depends on the adjacent and land users, especially agriculture and livestock farmers, whose land use practices will affect the marine ecosystems that will be storing blue carbon. The involvement of our communities is very important because involvement brings commitment. It's not only about a top-down approach, but a bottom-up approach as well, because people need to take ownership. Because when they take ownership, they will also be committed. So the involvement of our local communities is so important. It depends on the extension offices from the private sectors to provide the right guidance to resource users who will impact on the blue carbon resources. Again, the role of local government authorities and planners who are hard pressed to progress on the development of coastal fisheries. It depends on the private sectors as well, and investors who are attractive and who offer attractive and lucrative investments. And of course, it depends on national governments to ensure policy, the legal and institutional frameworks are in place to support a coordinated approach amongst the various sectors, local governments and private sectors that are, and that measures are in place to support overall sustainable development, agriculture, production and food systems. Excellencies, we are in challenging times and with an array of stresses currently placed on our ocean and marine ecosystems and marine food source, we should remind ourselves that the ecosystem services provided by the oceans extend beyond national boundaries and jurisdictions, and therefore ecosystem services also provided by terrestrial biodiversity of small island developing states or SIDS, despite their limited abundance and fragility for most of them. Therefore, we, the global community, need to come together to respond to the challenges that we now face. And let me conclude by saying that protecting biodiversity from threats is everyone's business. And therefore, no single government, company, research institution, or NGO can address these challenges on their own, nor can they do so through isolated, uncoordinated actions. Partnerships, coordination, and joint initiatives must be at the core of how we respond to these challenges. The health, the livelihood, and well-being of small island communities depend heavily on this. And of course, the way forward is dialogue, Excellencies. Thank you.
Thank you, Minister. Thank you for reminding us on the need of partnership, better coordination and joint initiatives. And you brought a new perspective, the perspective from the oceans and fisheries, the need to have a preservation of our aquatic and marine oceans and marine ecosystems, how we can preserve and support the local communities in order to have a conservation of our biodiversity. Then I move to our last speaker. Our last speaker is Mr. Diatta. He is the Secretary General, the Minister of the Solidarity, Based Economy and Microfinance of Senegal. Monsieur Diatta, hier, on a beaucoup parlé de l'importance des petits producteurs, des femmes et des jeunes dans la perspective de la conservation de la biodiversité. La commissaire de l'Union africaine aussi a parlé de l'importance de la biodiversité pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la perspective et l'importance des femmes, des jeunes et des petits agriculteurs et qu'est-ce que vous faites au Sénégal dans la conservation de la biodiversité? Vous avez la parole. Merci.
Merci, Madame la Présidente. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués participants à ce débat de haut niveau. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de transmettre les remerciements de Mme Aminata Angélique Manga, ministre de l'économie solidaire et de la microfinance du Sénégal, à M. le directeur général de la FAO pour l'invitation personnelle qui lui a été adressée. Pour répondre à votre question, je tiens à préciser qu'il ne s'agira pas pour nous de passer en revue tout ce que le Sénégal fait en matière de conservation de la biodiversité, parce qu'il y a le ministère de l'Environnement qui coordonne toutes les activités concernant cet aspect. Je vais seulement envisager la question de la promotion des indications géographiques, quel peut être l'impact de la promotion des indications géographiques sur la sauvegarde de la biodiversité agricole, ou bien comment, en s'investissant dans la promotion des indications géographiques ou bien la promotion des produits du terroir, peut-on contribuer à intégrer la biodiversité dans les secteurs agricoles? Pour cela, permettez-moi de vous proposer une définition des indications géographiques. Elles sont définies par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, comme étant des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut-être attribué essentiellement à cette origine géographique. Les indications géographiques visent, à l'instar des noms commerciaux, des labels et des marques, à distinguer les produits auprès des consommateurs, mais elles permettent aux producteurs de protéger la réputation de ces produits, construite souvent au fil des années au prix de maints efforts autour de leurs caractéristiques. Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays de l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, regorge de produits traditionnels agricoles dont la qualité et l'origine peuvent utilement être valorisées grâce aux démarches collectives de qualité et aux indications géographiques auprès des consommateurs. On peut noter quelques exemples. Quelques produits forestiers de la Casamance, le mad, le ditar. Il y a également le miel, l'huile de palme et le riz rouge, toujours de la Casamance. Le sel du lac Rose. Les produits de cuir de Gaïméré. Nous avons M. le maire de la commune de Gaïméré ici. Le symbiome ou yet. Et le couscous de mil salé de Joël Fadjout. Le fognon et le beurre de karité de Kédougou. L'oignon ou bien soblé des Niaïs, le bissap, le café Touba, etc., pour ne citer que cela. Tous ces produits sont souvent spécifiques d'une zone géographique et font l'objet de méthodes de fabrication traditionnelles, dont les compétences sont en général détenues par les femmes. Madame la Présidente, vous avez parlé des femmes, et se transmettent de génération en génération. La question de la protection des signes d'identification de la qualité et l'indication géographique constitue un enjeu important pour le Sénégal, afin non seulement de sauvegarder le potentiel de ressources naturelles, mais aussi de promouvoir une agriculture locale compétitive. Avec le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel en matière de politique économique et sociale au Sénégal, on ambitionne de favoriser une croissance économique durable et a fort impact sur le développement humain. Le gouvernement du Sénégal a ainsi clairement montré sa volonté de s'inscrire dans cette tendance visant à promouvoir un développement économique inclusif qui utilise les apports de la propriété intellectuelle et des indications géographiques en particulier au bénéfice de l'ensemble de sa population. Comment le Sénégal compte, à travers la promotion des produits du terroir, contribuer à la sauvegarde de la biodiversité agricole ou bien à l'intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles. Comme vous le savez, le ministère de l'économie sociale et solidaire travaille essentiellement avec les producteurs, avec les organisations, les mutuelles, les coopératives, et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'élaborer la lettre de politique sectorielle de développement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Et actuellement, nous sommes dans l'élaboration de deux programmes qui sont presque ficelés. Il y a le programme de promotion des produits de terroir, ayant pour objectif de promouvoir et développer l'approche chaîne de valeur pour les produits horticoles et forestiers du Sénégal selon les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire, qui est différente de l'économie générale. Mais aussi, nous avons le projet d'agriculture familiale intégré autour du biodigesteur, dont l'objectif est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et à la préservation de l'environnement par la promotion de l'agriculture familiale écologique intégrée à l'élevage à travers le biodigesteur. Donc, l'indication géographique peut nous permettre, ou bien la promotion des produits du terroir peuvent nous permettre de valoriser certains produits agricoles et peuvent nous permettre l'augmentation des prix de ces produits, l'accroissement des terrains cultivés, l'amélioration de l'économie locale avec des bénéfices en termes d'éducation, de santé dans les régions. Mais aussi de nouvelles opportunités d'emploi et de stabilisation des ressources humaines dans les régions. Je pense qu'il y a mon compatriote qui parlait de l'exode des jeunes. Je reviendrai avec la promotion des produits du terroir. Ça peut permettre de maintenir les jeunes sur place. L'expérience montre que les chaînes de valeur basées sur des produits indications géographiques peuvent avoir des effets positifs sur l'économie, sur l'environnement, ce qui permettra une utilisation durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. Sur la création d'emplois et sur les investissements dans un territoire ainsi qu'en principe sur une amélioration du revenu des acteurs de la filière et notamment des producteurs. Donc, toujours, la promotion des produits du terroir peut nous permettre de restaurer des mécanismes de transmission intergénérationnelle, des pratiques traditionnelles de production qui tendent à disparaître avec l'exode des jeunes, je l'ai dit. C'est un facteur de durabilité sociale. Ça permet de prendre en compte l'implication des jeunes et des femmes. Vous me l'avez demandé, Madame la Présidente. Ça permet de la prise en compte de l'implication des jeunes et des femmes fortement présents dans les filières économiques du territoire. Ça permet également une répartition équitable des gains de la stratégie territoriale. C'est un facteur de durabilité environnementale, des techniques de production qui tend à s'affaiblir, puisque exploitation abusive et frauduleuse des forêts, apparition de mauvaises pratiques de production. Nous pensons avec la promotion des produits du terroir, ça peut freiner. Protection des exploitations familiales. Nous pensons que l'agriculture familiale peut préserver les produits alimentaires traditionnels tout en contribuant à une alimentation saine et équilibrée, à la conservation de la biodiversité agricole et à l'utilisation durable des ressources naturelles. Quelqu'un parlait de petits exploitants, je n'aime pas le petit mot, le petit exploitant. Je parlais plutôt d'exploitants qui ont des moyens très faibles. Donc, avec tout ce potentiel, le Sénégal peut enregistrer plusieurs noms et produits correspondant à la définition des indications géographiques. En effet, l'espoir reste grandissant pour l'insertion plus large des indications géographiques dans le système agricole sénégalais. Ainsi, l'appropriation de ces indications géographiques par les acteurs sénégalais permettra au secteur d'accroître la compétitivité de ces produits et à renforcer la capacité des territoires porteurs de produits et à attirer les entrepreneurs, consommateurs et touristes. Pour toutes ces raisons et en vue de permettre au Sénégal et à ses producteurs de profiter des bénéfices que peuvent leur apporter les indications géographiques et ainsi contribuer à la sauvegarde de la biodiversité, nous vous invitons, vous tous, à une offre de partenariat entre le Sénégal et tous les acteurs ici présents. La FAO est déjà partenaire du Sénégal et je vous invite tous à venir visiter le Sénégal, ceux qui n'ont pas encore fait le Sénégal. Mon ami de la Suisse qui est à côté m'a dit que c'est un colis. Un colis, c'est un nom de famille de la Casamance. Venez visiter le Sénégal et vous êtes invités. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.
Merci, Monsieur Diatta, d'avoir partagé avec nous l'importance des systèmes d'indication géographique, la promotion des produits des terroirs pour la préservation de la biodiversité. This concludes our panel discussion from this morning. Please join me in a round of applause for our eminent speakers who have provide the context and the way forward how we can mainstream biodiversity across the agriculture sectors and how we can better link the three Rio conventions. Thank you very much. for your participation. We look forward to COP14 in Egypt. And now join me also in welcoming the Director General. A round of applause for all of them.